Notre rendez-vous mensuel avec Braise Europe Finistère, en ce lendemain de la Journée de l'Europe, on se penche sur un sujet souvent brûlant, la politique agricole commune. On le fait avec une élue, non pas de l'Union européenne, mais de la nation, car elle est aussi finistérienne et maraîchère bio. Elle est députée LAREM, c'est Maëlle Cordeau, le président de Braise Europe Finistère, qui l'a interviewée.
Je suis donc Sandrine Lefeur, j'ai 30 ans, j'habite à Pleyber-Christ dans le Finistère, où je suis donc agricultrice en polyculture élevage, en agriculture biologique. On a aujourd'hui, avec mon conjoint, 48 hectares, donc on est à deux sur l'exploitation. C'est vrai qu'on s'est installé, nous, très très jeunes, puisque mon conjoint s'est installé en 2012 et moi en 2015. Et donc, on a en production principale des légumes, mais on a aussi des fruits, des moutons, des vaches pour la viande, et on fait un petit peu de culture céréalière également. Donc moi j'ai été élue députée en 2017, je suis également membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, c'est un rôle que je prends vraiment très à cœur, et j'ai été également responsable pour le groupe La République En Marche de la loi dite Egalim. Je pilote également donc deux groupes de travail, un sur la souveraineté alimentaire et un comité de concertation multi-acteurs sur une proposition de sécurité sociale de l'alimentation. Donc tout ça pour vous dire que je me sens vraiment très européenne et notamment en tant qu'agricultrice puisque j'ai bénéficié d'une politique publique communautaire majeure, la PAC. Donc j'en bénéficie toujours, et puis des aides aussi pour les jeunes agriculteurs à l'installation. Et il faut savoir que la PAC, c'est quand même le premier poste budgétaire de l'Union européenne.
Selon vous, en tant que députée de la Nation et du Finistère, quels sont les grands enjeux et défis qui sont à venir dans le Finistère en matière agricole et agroalimentaire?
Alors, les grands défis que l'on peut voir dans le Finistère en termes agricoles et agroalimentaires, on peut en trouver plusieurs, hein. Il y a le sujet des algues vertes qui est un enjeu bien connu et qui a encore récemment fait l'objet d'articles dans la presse liés notamment au déversement d'intrants et d'effluents d'élevage dans les cours d'eau, donc notamment chez moi de la Pinzée à Tolé. Il y a aussi la concentration d'élevage intensif sur le territoire breton, alors qu'une approche moins spécialisée et plus harmonisée sur le territoire français serait souhaitable à la fois pour l'environnement mais aussi pour notre souveraineté alimentaire et notre résilience face au changement climatique. Et puis j'en vois un autre, c'est l'utilisation des engrais azotés minéraux. Donc là c'est peut-être plus un enjeu national, mais qui concerne également le Finistère, avec une source quand même de 42% des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Et c'est pour cela que moi, je défends l'instauration d'une redevance sur les engrais azotés minéraux, dont les recettes soient reversées, donc par l'intermédiaire des agences de l'eau, au secteur agricole pour financer la transition agroécologique. C'est une mesure qui est écologique et sociale, même si certains essaient de la dépeindre comme mesure punitive, moi je ne pense pas que ce soit le cas.
Vous parliez de la PAC tout à l'heure, et donc est-ce que pour nos auditeurs les plus néophytes, vous pourriez nous expliquer ce qu'est la politique agricole commune et pour quel motif justement elle est importante aujourd'hui?
Oui, alors la PAC, donc la politique agricole commune, c'est le premier poste budgétaire de l'Union européenne. Et c'est l'instrument d'aide au secteur agricole européen. Il faut savoir qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il fallait produire et nourrir la population européenne qui s'était devenue la priorité, en fait. Et l'Union européenne, tout juste créée, s'est donc attachée à aider l'économie agricole en versant des aides directes pour soutenir les revenus des producteurs et le marché agricole en général, et également le développement rural. Donc on appelle ces deux axes, en fait, le premier pilier, qui est relatif aux aides de marché et aux revenus, et puis le second pilier, qui lui est relatif au développement rural en particulier. La politique agricole commune, elle est révisée tous les 7 ans, Et c'est l'occasion de lui donner une orientation différente, justement, en apprenant des bilans précédents. Et cette année, la France doit formuler son plan stratégique national, le PSN, c'est-à-dire la façon dont elle va mettre en œuvre dans son pays la nouvelle politique agricole commune. Donc moi, je milite pour introduire plus de paiements pour services environnementaux, c'est-à-dire rémunérer les producteurs qui protègent les écosystèmes par des modes de culture vertueux et à la hauteur de leurs efforts pour l'intérêt général.
Et selon vous, en tant que députée, mais aussi agricultrice, quel rôle vous avez à mener donc à l'Assemblée nationale et aussi quel degré d'influence estimez-vous avoir auprès de vos collègues?
Alors, quel rôle on peut jouer par rapport à ces politiques agricoles? La politique agricole commune, c'est une politique européenne dont les orientations majeures sont prises parce qu'on appelle le trilogue, c'est-à-dire le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen. Ensuite, le gouvernement français remet sa programmation nationale que j'évoquais lors de votre question précédente à la Commission européenne pour validation. Le Parlement français aujourd'hui, il n'est pas consulté, alors que le Parlement allemand, il l'est, par exemple. Mais ça ne m'empêche pas de poser des orientations et de les envoyer au gouvernement avec d'autres collègues. C'est pourquoi moi, j'ai écrit un petit rapport à ce sujet avec proposition. Et le Parti socialiste a également inscrit à l'ordre du jour des débats de l'Assemblée nationale la PAC. Donc les députés débattront mercredi après-midi, même si le gouvernement n'est pas contraint de tenir compte de leur avis. Le débat, je pense, est très important. Et donc notre influence, elle est quand même mitigée. Mais je crois qu'il est vraiment crucial de toujours faire en sorte qu'un exercice démocratique ait lieu. Et il en va de notre devoir de représentant de la nation, en fait.
Aussi, vous avez déjà évoqué dans des interviews l'idée de travailler autour de la filière du lin et du chanvre. Est-ce que l'Union européenne pourrait être, par exemple, une source de financement pour ce type de projet et donc permettre l'émergence d'autres idées de ce type pour d'autres agriculteurs, par exemple?
Oui. Alors, faut savoir déjà que la filière lin et chanvre, c'est vraiment une filière stratégique sur de nombreux plans. Ce sont des cultures de substitution du coton que nous importons massivement et qui est un grand consommateur d'eau et quand il n'est pas cultivé en bio, de produits phytosanitaires également. C'est donc vraiment un enjeu de souveraineté nationale. Ça permettra aussi de structurer des filières locales et créer des emplois locaux qui sont non délocalisables. C'est vraiment un enjeu économique et industriel majeur. La culture de lin et de chanvre, elle permet également de fixer l'azote et donc de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est donc aussi un enjeu climatique. Et donc pour toutes ces raisons, il faut vraiment structurer ces filières qui sont clés. Et la PAC permet de financer justement la structuration de filières, notamment par le premier pilier qui est l'aide au marché. Et j'aimerais vraiment qu'on aille plus loin dans ces propositions d'aide justement à la structuration des filières pour répondre aux besoins financiers et accélérer l'essor de ces cultures sur notre territoire breton. À titre d'exemple, moi j'ai une année fait du chanvre, donc pas pour le textile mais pour l'utilisation de la graine. Et effectivement, la structuration de la filière n'est aujourd'hui pas encore au point pour permettre son extension. Donc la PAC peut tout à fait aider dans sa structuration.
Et est-ce que justement cette nouvelle version de la PAC qui a été proposée donc aux États membres très récemment, c'était il y a quelques semaines, pourrait répondre justement à ces grands enjeux sociaux et écologiques?
Oui, alors la nouvelle PAC, c'est vraiment un progrès qui est non négligeable. Voilà. Même si on peut entendre beaucoup de choses autour de ça, c'est quand même important de l'avoir en tête. Il faut savoir qu'auparavant, les paiements verts ne permettaient pas suffisamment de soutenir et d'accélérer la transition de nos modes de culture. Il est estimé que seuls 5% des surfaces ont pu évoluer vers de pratiques vertueuses grâce à cette PAC. Donc cette nouvelle PAC, elle propose l'instauration d'éco-régimes qui permettent de dédier entre 20 et 30% des fonds du premier pilier au financement de la transition. Donc ça, c'est assez inédit. La France s'est également battue pour conserver le même budget pour les 7 ans à venir que celui des années passées, ce qui n'était pas gagné d'avance. Et puis on a aussi la conditionnalité des aides, c'est-à-dire l'obligation de respecter, donc de respect d'un socle de conditions environnementales et sociales pour obtenir des aides. Donc ça va devenir obligatoire. Les exploitations qui ne s'y conforment pas ne toucheront plus d'aide. Donc c'est pour ça qu'on entend aussi grincer des dents à gauche, à droite. Et malgré ces avancées, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Moi, je demande une mise en conformité du plan stratégique national de la PAC avec notre stratégie nationale bas carbone, qui est notre feuille de route pour respecter nos engagements climat, et le déploiement de nouvelles mesures pour soutenir notamment l'agroforesterie et le sylvopastoralisme. Nous perdons aujourd'hui, faut savoir, 11 500 km de haies en France, donc ce qui n'est pas tout à fait vrai pour la Bretagne, mais là je parle en France, alors que nous devrions doubler le linéaire existant d'ici 2050 pour respecter nos engagements climat. C'est à la fois un problème d'insuffisance de rémunération des pratiques de gestion et de plantation des haies, et donc avec la FAC Agroforesterie, je propose qu'on reconnaisse le label haies, le label de bonne gestion, et qu'on octroie des aides progressives aux exploitations dont le linéaire de haies est important. Et un dernier exemple, je propose de conditionner une partie des aides octroyées aux industries agroalimentaires à leur participation à des démarches collectives type les PAT, les projets alimentaires territoriaux. Mais bon, beaucoup de choses sont encore à faire.
Vous évoquiez il y a quelques minutes le projet de loi EGalim, donc qui prévoit 15% de surface agricole bio sur le territoire français d'ici 2022. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui des objectifs ?
Alors, effectivement, dans la loi EGalim, on prévoit 15% de bio en 2022. Nous étions à 8,5% en 2019 et il est probable que nos objectifs ne soient pas atteints pour 2022. On a le crédit d'impôt bio, par exemple, qui n'est aujourd'hui... Il n'est pas suffisant en fait. Il est à différencier du crédit d'impôt haute valeur environnementale. Or, ce label, le haute valeur environnementale, il est beaucoup moins ambitieux que la bio et c'est vraiment un premier problème que je vois en tout cas. On peut voir aussi que le second pilier de la nouvelle PAC ne rémunère plus le maintien de la bio, mais uniquement la conversion. Et donc, il est vraiment à craindre que la rémunération du premier pilier ne soit pas à la hauteur des besoins et que la haute valeur environnementale, qui est moins vertueuse, se trouve davantage soutenue. Ça serait vraiment problématique. À titre d'exemple, il est vraiment nécessaire d'utiliser moins de 30% de son chiffre d'affaires de produits phytosanitaires pour obtenir la haute valeur environnementale. Or, on a certaines filières, telles que la viticulture ou le maraîchage, qui en utilisent respectivement 14 et 26% en moyenne. Donc pour eux, la certification, elle est automatique dès aujourd'hui, et ça pour près de la moitié des producteurs, sans changement de pratique. Donc ça pose vraiment problème. Et nous devons être aussi cohérents pour rémunérer la bio à la hauteur des services rendus. C'est uniquement comme cela qu'on pourra faciliter son essor.
Et enfin, j'aurais une dernière question. Qu'est-ce que vous auriez à répondre aux remarques du type, des remarques qu'on entend très souvent, le bio ça coûte cher, ou encore que toutes les difficultés qu'on rencontre en tant qu'agriculteur, par exemple, viennent toutes de Bruxelles?
Oui, alors ça, ce sont des phrases que j'entends très régulièrement, c'est vrai. Surtout, moi, pour être en agriculture biologique, mais bizarrement, pas de la part de mes clients, donc ça me rassure. Donc, il faut savoir que le bio, c'est vrai, il coûte un petit peu plus cher que le conventionnel parce que les producteurs, déjà, ne sont pas aidés à la même hauteur que les producteurs conventionnels. Ce sont vraiment les perdants de la PAC et au rythme des négociations actuelles, il est à prévoir que la nouvelle PAC les aide encore moins. Donc, le raisonnement est que comme le bio est créateur de valeur sur le marché, il a besoin de moins de subventions. On est légitime donc que la bio soit réservée aux plus riches. Ça, c'est la réflexion assez classique. Et en fait, ça s'explique. Donc moi, je m'oppose complètement à cela. Je soutiens vraiment une bio accessible à tous, Mais pour cela, on doit rémunérer les services environnementaux de manière beaucoup plus forte. Et donc, la dernière chose que je pourrais répondre sur votre question, c'est que je pense qu'on doit également aider le consommateur à accéder à ces produits de qualité. Et moi, je propose l'instauration d'une sécurité sociale de l'alimentation qui permettra au consommateur d'être remboursé sur son alimentation saine et durable afin que la demande permette également d'insuffler les changements de pratique. Je crois qu'il faut vraiment prendre le taureau par les cornes par les deux bouts, en fait, par le côté consommateur et le côté agriculteur. Et l'offre et la demande peuvent être ces deux outils complémentaires de cette transition qui est de toute façon inéluctable et qui doit répondre à l'urgence environnementale et sociale que nous vivons aujourd'hui.
Sandrine Lefeur, interviewée par Braise Europe Finistère, notre partenaire qu'on retrouvera le 1er juin pour la dernière chronique européenne de la saison.